Peu de juifs en diaspora d'Israël, c'est ceux qui peuvent y retourner, ou qui pourraient y retourner, surtout ça se dévoile depuis qu'Israël existe, mais qui ont des raisons valables d'être encore en dehors. Je pèse mes mots, hein, parce que je ne veux pas faire des chapitres là-dessus. Tandis que ceux qui ne peuvent pas retourner, ou ceux qui font comme si Israël n'existait pas, sont en galoute, ne sont pas en diaspora. Et alors, cette différence de galoute, eh bien, je vous donne un exemple très clair. Ce miracle qui s'est passé avec les Juifs de Russie, lorsqu'il y a eu la chute du mur de fer, alors les Juifs de Russie n'étaient plus en galoute, ils étaient en diaspora. Mais tant qu'il y avait le mur de fer, ils étaient en galoute, ils ne pouvaient pas. Pour eux, la métropole n'existait pas. C'est clair. Et mais pour les pays d'Occident, où il n'a jamais été interdit ou impossible de revenir en Israël, Israël existe, il y avait une galoute subtile, psychologique, plus forte que le rideau de fer. Parce qu'ils pouvaient revenir, ils ne revenaient pas. C'est donc qu'il y avait un obstacle plus fort. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et je vous ai raconté cette histoire, je raconte souvent. J'ai un ami qui a fait à peu près les mêmes études que moi, qui est rabbin. Et à chaque fois qu'on se rencontre, on se tombe dans les bras. Comment ça va? Qu'est-ce qu'on pense à toi? Je dis, c'est moi qui pense à toi, non, mais c'est pas grave. Je dis, ah, si je pouvais faire comme toi, qu'est-ce qui t'empêche? C'est des problèmes. J'arrive pas à vendre ma deuxième maison de campagne. C'est un rideau de fer subtil, mais efficace. Et donc, le mystère, c'est qu'est-ce que c'est un rabbin qui a une deuxième maison de campagne? C'est suspect. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je dis pas plus, vous allez le reconnaître. C'est un très brave type. Alors, en tout cas, pour revenir au sujet, c'est l'exemple du Sanhédrin qu'il était nécessaire pour être dans l'effet de Kohanim et Goy Kadosh, mais en tant que Kohen, que le Sanhédrin représente l'humanité tout entière. Alors, je vais vous lire un texte du Talmud, ça va nous prendre un peu de temps, mais ça fait rien. On est déjà dans ce verset au moins. C'est pourquoi Rashi, intentionnellement, dit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il aurait expliqué la Torah? Il aurait dû dire qu'il aurait expliqué la Torah pour eux qui vont commencer l'histoire d'Israël. Eh bien oui, précisément, pour commencer l'histoire d'Israël, il faut qu'il soit le Sanhédrin de l'humanité, mais pas pour les Goïm, pour être Israël. Parce que Israël, c'est Israël de l'humanité entière. Et Israël n'est pas Israël s'il n'a pas les 70 sagesses. Bon, c'est un peu idéal ce que Talmud a dit en disant que chaque membre du Sanhédrin devait connaître une des idolâtries des nations et une langue des nations. Mais c'est pour inclure ce génie des nations dans l'identité d'Israël. Ceci dit, ce n'est pas Moïse qui a besoin de leur faire un loupane. Dès qu'ils descendent en exil, eh bien, ils apprennent le français de la Macolette, ou l'anglais de la Macolette, tchitchak. Vous savez, quand les juifs nord-africains sont arrivés en France, ils connaissaient le français mieux que les français. Je me rappelle de ces histoires au rapatriement, entre guillemets. C'est les juifs algériens qui disaient, tiens, entendu, ma fille, c'est pauvre parisien, comme il parle pointu. Je ne sais pas si vous rappelez de ça. C'était authentique. La famille irlandaise, c'est vrai. Je ne croyais pas que c'est des histoires. Quel accent ils ont, les pauvres. Ça continue d'ailleurs. Il n'y a pas plus naïf qu'un juif. On faisait comme ça. Est-ce qu'ils ont besoin de Moïse? N'importe quel immigré, il donne des leçons de français à la Sorbonne 6 mois après. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si vous savez que le plus grand linguiste français, c'est un juif tunisien. Comment il s'appelle?
Adjège.
Et je connais des Adjèges qui ont francisé leur nom. Je vous le donne en mille. Monsieur Pellerin. Adjège. Ne rigolez pas, c'est vrai. C'est un Adjège qui s'appelle Monsieur Pellerin. Bon, tout est possible avec les Juifs. Alors, je vous dis rapidement de quel sujet il s'agit. Au début du chapitre 2 de Brachot, j'ai la tentation de faire des photocopies. Hein? Non, vous allez faire mieux. Vous allez vous débrouiller pour avoir une masse de Brachot. étudiez ça chez vous, mais je vous donne les indications. Une minute que je retrouve mon souffle. J'ai dit du mal de qui, quoi. C'est une famille de criquets qui est les criquets. Non, mais j'étais soufflé un jour, je reçois une lettre de la famille Pellerin. Et puis, bon, j'ai dit, mais j'ai affaire à des Français. Quoi. Pas du tout. C'était des Tunisiens, Hadjadj. Voilà de quoi il s'agit. La Mishnah dit ceci. On étudie le cas de quelqu'un qui est en train de lire dans la Torah, après j'expliquerai plus en détail, la paracha de Kriyat Shema. Et arrive, pendant qu'il lit dans la Torah, la paracha de Kriyat Shema, arrive le temps de dire le Kriyat Shema. En hébreu, c'est Ayakov Eva Torah, Rashi, paracha de Kriyat Shema, Yazman Amikra, Rashi, Zman Kriyat Shema. Et la Mishnah dit, Im Kiven Libo, s'il a mis l'intention qu'il faut dans sa lecture, Yatsa. Il est quitte de la mitzvah de Kriyat Shema. Après l'ensemble des commentateurs, je cherche et Matisse, de quel cas il peut s'agir. C'est un cas qu'on va voir apparemment très 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 spécial. Parce que normalement, on attendit notre formule. La Corée Kriyat Shema, Tsaré Shi Kaven Libo. Celui qui dit Kriyat Shema doit mettre le Kavana. Il dit non, c'est autre chose qu'il a dit. Il a dit, quelqu'un est en train de lire Kriyat Shema dans la Torah, pas pour faire la mitzvah de Kriyat Shema. Et arrive le temps du Kriyat Shema, parce que avant qu'il fasse jour, c'est pas le temps du Kriyat Shema, ou bien avant qu'il fasse nuit, c'est pas le temps du Kriyat Shema soir. Donc c'est pas le temps de la mitzvah, c'est pas la mitzvah que j'ai fait une bonne action, j'ai lu un passage de la Torah. Mais la mitzvah, le commandement d'affirmer l'unité de Dieu au passage entre la nuit, le jour et le jour et la nuit, ça j'ai pas fait, puisque je le fais dans le jour ou dans la nuit. Et d'après le sens du Kriyat Shema, affirmer l'unité de Dieu, bien qu'il y ait le jour et la nuit et que c'est contraire, il y a un seul Dieu. Cette mitzvah ne prend force de loi qu'au passage d'un monde à l'autre. C'est clair. D'ailleurs, en général, on dit Kriyat Shema au passage d'un monde à l'autre. La preuve, au moment de la mort, on dit Kriyat Shema. On passe d'un monde à l'autre. C'est pour attester le Dieu de son nom-ci, c'est le Dieu du monde à venir. C'est le monothéisme intégral. Alors la Mishnah aurait dû dire, celui qui dit le Kriyat Shema doit avoir l'intention de faire la mitzvah du Kriyat Shema. Mais elle a dit autre chose. Elle a dit, il est en train de dire dans la Torah le Kriyat Shema. Arrive le temps de faire la mitzvah. S'il a l'intention de faire la mitzvah, il passe. Discussion de la Gemara, mais il lisait. Que ça veut dire, il a l'intention, qui vient du bout, de lire, mais il lisait. Il dit non, il lisait les Agia. Il lisait pour corriger le texte. Donc c'est un cas très particulier d'un sofer dont le métier est d'écrire le Sefer Torah. Il repasse son passage de Kriyat Shema pour vérifier s'il n'y a pas de faute pendant qu'arrive le temps de la mitzvah. S'il met la kavana, on ne sait pas laquelle, il est yotze, il n'a pas à s'arrêter et à recommencer mitzvah de Kriyat Shema. C'est un cas compliqué comme c'est pas possible. Est-ce que vous avez compris, je vais aller vite. Oui, si déjà le mikra, c'est pas facile à lire, à plus forte raison le Talmud. Alors quand on traduit le Talmud, qui c'est qui va comprendre ce qu'il y a dedans vraiment? Alors il y a une traduction, et puis c'est les goyim qui s'en en parlent. Bon, je reviens au sujet. La Gemara dit ceci. Shmar mina mitzvot srichot kavana. Alors on apprend de ce cas de la Mishnah que le mitzvot, pour être authentique, pour être valable, doivent impliquer l'intention que c'est une mitzvah que je fais. C'est clair? On sait que c'est pas la règle. Mais c'est un problème tellement important que dès que la Gemara attrape une formule de la Mishnah, elle dit « Shema Mina », de là on peut apprendre. On peut apprendre à trancher ce problème si vaste. Est-ce que les mitzvot ont besoin de l'intention que c'est une mitzvah que je fais pour être valable? Vous avez compris? La règle actuellement, en fait depuis des siècles, c'est que les mitzvot sont valables même si c'est pas une mitzvah que j'ai l'intention de faire. Par exemple, celui qui dit, oui, je fais circoncis mon fils, mais par hygiène. Est-ce que c'est valable? Pas parce que la Torah a demandé, par hygiène. Ou la honte de dire qu'au fond, il le fait parce que la Torah a demandé. Alors, la règle, c'est que c'est valable puisqu'il l'a fait, pourvu que tu la fasses. C'est mieux s'il pense que c'est une mitzvah qu'il doit faire. Et d'ailleurs, la règle, c'est que, comment j'atteste que c'est une mitzvah que je veux faire, c'est quand je dis une bracha avant de faire la mitzvah. C'est pour attester que c'est en tant que mitzvah que je la fais. Mais par exemple, quelqu'un qui dit « je mange cachère parisienne », est-ce que c'est valable? La réponse à la chose aujourd'hui, oui, c'est valable. Mais on préférait qu'il mange cachère parce que c'est une mitzvah. Alors il s'invente des tas de raisons, de modes culturels, c'est parisienne. Comme si tous ceux qui ne mangent pas cachère sont intoxiqués. Ils ne sont pas normaux, tous ces oui. Ils ne mangent pas cachère, ils sont vivants, ils ne sont pas normaux. Je ne sais pas si c'est clair. Qu'est-ce que l'hygiène a à voir là-dedans? Et vous croyez qu'on ne peut pas manger cachère pas hygiénique? Je vais vous donner un exemple. J'ai lu, moi, dans un des livres, il y a comme ça une... Ça vaut la peine que vous compreniez bien. Un petit détail de Minhagim. Et le rabbin qui a écrit ce livre a peut-être manqué un peu de pédagogie. Il y a une grande différence de Minhag chez les Ashkenazim et chez les Sfaradim. Chez les Sfaradim, on n'a pas l'habitude de mélanger le poisson et le lait. Alors chez les Ashkenazim, il n'y a pas de problème. Le sandwich au hareng au beurre, c'est très Ashkenaz. Mais la première fois qu'un Sfarad a vu ça, il s'est arraché les cheveux, c'était moi. Un jour, ma fiancée, qui est devenue ma femme, m'apporte un petit déjeuner, un sandwich avec du hareng au beurre. On me dit, mais chez moi, on mange ça, pour bon, bref. Alors, j'ai ensuite appris, je suis Ashkenazi, mais on ne connaît pas ce moment. Eh bien, alors ça voudrait dire que les Ashkenazim ne sont pas normaux ou que les Sfaradim ne sont pas normaux. Pierre écrit dans ce livre, celui qui mélange le poisson et le lait risque d'attraper la lèpre. Et alors, tous ceux qui mangent du poisson et du lait, Ashkenazim y compris qui n'ont pas la lèpre, ne sont pas normaux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, ces histoires de la cache-route et de l'hygiène, c'est une platitude énorme. La cache-route est une mitzvah de la Torah. Comme la Torah est une, c'est valable aussi pour l'hygiène, en passant. Mais vous croyez que Moshe Rabbeinu était un hygiéniste? Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Il dit la vérité de la loi de Dieu pour la nourriture humaine, pour les Juifs. Jamais ne manger pas cachère pour les goyim est interdit par la Torah. Au contraire, quand on a quelque chose de pas cachère, c'est interdit de le détruire, il faut le donner à un goy. Je ne sais pas si c'est clair. Très souvent, je reçois des cadeaux. Mais ça profite à mes amis. Eh bien, les cadeaux de touristes, hein. En général, c'est des juifs qui m'apportent des tas de bouteilles pas cachées. Alors ça profite au père du four. C'est le pain sans levain. Voilà, donc je reviens au sujet. On a un grand problème en train. Est-ce que les mitzvot, pour être valables, ont besoin de la kavana que c'est une mitzvah que je fais? La Mishnah dit, la Gemara dit, Maïm qui m'est libo. Non, qu'est-ce que ça veut dire si met la kavana? C'est l'ikrot. Pas les mitzvah. Si met la kavana de lire. Alors, objection, l'ikrot, verra kakare. Mais ta Mishnah a dit, il est en train de lire. Elle répond non, à Corée, à Corée la Guia. Celui qui lisait pour épeler, pour corriger les fautes. Donc on a ici un cas tellement particulier qu'il faut mettre en compte, on ne comprend pas ce que la Mishnah veut dire. C'est le cas d'un sofer qui était, comme par hasard, sur le passage du Krashma en train de corriger pendant que va arriver le temps du Krashma. Et s'il met la Kavana, il est Yotse, il est quitte de la Mishnah. Mais on ne comprend pas ce que la Mishnah nous demande. C'est-à-dire, il met la kavana. Il faudrait qu'il mette la kavana avant de se mettre à corriger. Et quelle kavana? La kavana de lire, mais il ne lit pas, il épelle. Vous avez compris, je pense que c'est difficile. Juste après, on a un enseignement qui va nous éclairer et sur cette question et sur cette Mishnah. Tanu Rabbanan, nos maîtres enseignent, Kratchemar Kirtava. La lecture du chemin est comme son écriture. Ça veut dire, on doit la lire, on doit lire Kratchemar comme il est écrit. Ça s'emballe de soi. Mais Rashi explique On doit lire le Kriyat Shema en Lashon HaKodesh. Kriyat Shema Kirtava, le Kriyat Shema doit être lu en hébreu. S'il n'est pas lu en hébreu, on n'a pas fait le mitzvah. Divrei Rabbi, c'est l'enseignement de Rabbi. Vahachamim omrim bechol lashon. Alors que les sages disent en toute langue. Maïtama de Rabbi, quelle est la raison de Rabbi? Rabbi était le chef du Sanhedrin. Et les autres armées disent non, en toute langue. Pourquoi Rabbi dit Kirtava en Lashon HaKodesh? Amarkra, parce que le verset a dit Verayu, Verayu Advarim Haele. Et ces mots seront, la Gemara explique, Verayu, Verhavayatan Yehu. Ils seront comme ils sont. Tu ne changes pas par la traduction, par une traduction. C'est clair jusque-là? Verabanan Maitam Yehu. Mais les autres amis, quelle était leur raison de dire en toute langue? Amarkra, parce que le verset a dit Shema, écoute. Et Shema, ça veut dire, mais Bechol Lashon Shata Shomea, en toute langue que tu comprends. Ou Rabbi Namé Aktiv Shema. Mais pour Rabbi aussi, c'est écrit Shema. Pourquoi lui dit Kirtava, et pas comme les Rabbanan, qui ont dit Bechol Lashon Shata Shomea? Vous suivez, c'est clair? Haoum et Baele, parce que pour Rabbi, ce mot de Shema, ça ne veut pas dire en toute langue que tu entends, ça veut dire Ashma Leoznecha Mashata Motse Mipicha. Fais entendre à ton oreille ce que tu sens avec ta bouche. Ça veut dire, fais attention à ce que tu dis. Shema Israël, c'est méfie-toi, comprends ce que tu dis. Shema, c'est pas écoute Israël. Ça veut dire, prends garde Israël, à ce qu'est tout Shema Israël. Que malgré la représentation du monde, qu'à le jour et la nuit, Dieu est un. Prends garde, le monothéisme, c'est pas une évidence rationnelle. L'évidence rationnelle, c'est le dualisme. Oui, on est ailleurs. Vera Banam, Sabre Léo. Ça veut dire que les autres rabbins ont pensé, comme celui qui a enseigné, il n'a pas fait écouter à son oreille, il est quitte quand même. C'est quelqu'un, c'est celui, c'est que le Kriyat Shema, il faut le prononcer de telle sorte que l'oreille de chacun écoute, la bouche de chacun a dit. Mais il y a une opinion qui dit, il suffit de la voix intérieure. J'explique ça tout de suite rapidement. Pour beaucoup d'autres mitzvot, on demande que ça soit prononcé. Parce que dans la voix intérieure, il peut y avoir des inclinations ou des choses contradictoires. C'est quand je prononce ce que je dis que je témoigne ce que j'ai choisi de dire. Tandis que les tzadikim n'ont pas cette hésitation de la voix intérieure. Pour les tzadikim, c'est pas echad balev echad bapé, une chose dans la bouche, sur la bouche, une chose dans le cœur. Les tzadikim peuvent par la voix intérieure. Mais la halakha pour tout le monde, c'est il faut s'engager par ce qu'on dit. C'est clair? Bon, alors on dira que les rabbanan ont pensé que ça va de soi, qu'il s'agit de quelqu'un qui dit ce qu'il pense, parce qu'il pense ce qu'il dit parce qu'il dit ce qu'il pense. Ou Rabbanan Namé, Aktiv Verayu, mais pour les rabbins, l'inverse. Il y a écrit Verayu, Verayu, pour les rabbins, eux, pour moi. Rahou, mais pas aile, mais pas voile, cela, ils en ont besoin. Chez Loïc Ralema Fréard, qui ne disent pas les mots dans un autre ordre. Et ça devient très, très difficile. Parce que c'est d'afka dans la traduction, les mots ne sont pas dans le même ordre. Vous avez suivi ça? C'est pourquoi on a l'habitude d'expliquer en yeshiva, c'est les paragraphes et les versets. Là, il y a un sujet très important. La vérité d'un discours dépend de l'ordre des propositions. Si on change les propositions d'un discours, on a changé le discours, même si le contenu est le même. Vous avez compris un peu le propos. Rabbi, chez l'Oikra, les mains frères, Minale, et Rabbi, qu'il ne faut pas changer l'ordre d'où il l'apprend, Nafkale, il l'apprend, mais Dvarim Advarim, il a écrit Vayu Advarim Aele, et non pas Vayu Dvarim Aele. Advarim Aele, ça veut dire ces mots dans cet ordre-là. Veravanan Dvarim Advarim, et Ravanan Dvarim Advarim, la différence, la Dachou. Ils n'ont pas expliqué. Par conséquent, finalement, c'est Rabbi qui est le plus fort, puisqu'il y a au moins une indication du verset que les rabbins n'ont pas eu. Alors, je vais vous décrypter tout ça. C'est ceci. Primitivement, la halakha est comme Rabbi, c'est-à-dire Kriyat Shema Kirtava Lashon HaKodesh. Rabbi était le chef du Sanhedrin. Il représente Israël dans les 70 nations. Et la chorma d'Israël dans les 70 nations, c'est Lashon HaKodesh. Alors que chacun des Chachamim représente chacune des nations. Et primitivement, la halakha est comme Rabbi. Et on va l'apprendre d'une lecture que je vais vous donner rapidement. C'est que dans le verset du Kriyat Shema, il y a six mots. Shema Israël, Hashem Elkenu, Hashem Echa. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Rabbanan, Dvarim, Hadvarim, Nadashelim. Et Rabbanan, cinq des paroles, qu'il y en a six, ils n'ont pas expliqué. Ils n'ont expliqué qu'une, Shema. Ça veut dire, ce qu'on apprend ici, bon, je suis allé vite pour la lecture de la Gemara, mais je pense que c'est suffisamment clair. Ce qu'on apprend ici, c'est que dans le Sanhedrin, Rabbi, le chef du Sanhedrin, représente les intérêts d'Israël, et Shafan et Chachamim représentent les intérêts des nations. On n'a rien dans toutes ces sources qui est qu'il faut que les rabbins connaissent les langues étrangères pour apprendre la Torah aux étrangers. C'est l'inverse. C'est que Israël, c'est Israël de l'humanité tout entière. Il faut que le génie de la Chorma de chaque une des Shivim ou Moïse se cachérise dans le Sanhedrin. Ce qui fait que lorsque la communauté d'Israël dit Kriyat Shema, c'est l'humanité entière qui dit Kriyat Shema dans le Kahal du Sanhedrin. Parce que, à travers la kavana de chacun du monde du Sanhedrin, c'est la sagesse des nations qui passe dans le chemin Israël. Mais pour Rabbi, ça doit être Bilashon HaKodesh. Parce que lui, c'est Israël d'Israël. Et alors, c'est plus un cas particulier. C'était le cas général. Pour être sûr de pouvoir lire le Kriyat Shema comme c'est écrit, il fallait qu'on vérifie lettre par lettre. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots, il y a une lettre en plus. Il y a des mots, une lettre en moins. Et qu'il faut lire le mot à la lettre, en hébreu, en Lashon HaKodesh. En traduction, ça n'a aucune importance si tout à faute, il y a un vav ou pas. Parce que dans la traduction, c'est des phylactères. Phylactères, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, donc, je sais. Vous comprenez, je veux dire. Alors, voilà un exemple dans le Gemara qui montre pourquoi en Israël, il doit y avoir le génie de sagesse des nations, mais cachérisé dans le Sanhedrin. Mais la Torah, c'est la Torah de Rabbi. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc nous sommes à peu près, je crois que c'est vous qui avez donné la réponse. C'est qu'en réalité, les sources disent que Moïse a vu qu'ils iraient rapidement chez les nations et que pour garder leur Torah, il fallait que Moïse leur apprenne le sens de leur Torah dans la langue des nations. C'est les langues juives. Les langues juives, ça nous permet de comprendre la Torah des Hébreux dans la langue des Goïm. Les Ashkenazim sont privilégiés, parce que c'est vraiment le cas du Yiddish. Le Yiddish, c'est une langue goy judaïsée. Et quand on connaît un mot Yiddish en Yiddish, c'est le même qu'en allemand, mais il n'a pas le même sens. Parce qu'il est cachérisé en hébreu. Je ne sais pas si c'est clair ce livre. Vous avez, pour les Ashkenazim, vous comprenez ça. C'est un peu la même chose. Dans le judéo-arabe, il y a eu le judéo-français d'ailleurs de Provence. Dans le judéo arabe, il y a différents judéo arabes, ça s'appelle le tafsir. Le même mot arabe prononcé par un juif du judéo arabe a un sens différent que le mot arabe prononcé par un arabe. D'ailleurs, moi je suis encore d'une génération pas connue, cette culture judéo arabe. Je peux vous garantir, il y en a d'autres, je peux vous garantir que la même mélodie, quand c'est un juif qui la chante, à la troisième note, à la radio, on sait quel juif la chante. Alors quand c'est un arabe qui la chante, c'est la même mélodie, mais ça n'a rien à voir. D'accord? Et pas seulement la mélodie, mais les mots eux-mêmes. Et ça, c'est resté en Yiddish vraiment très fort. Quand... Voilà donc pour ce qui est un peu sur ce verset, mais j'arrive à l'essentiel de ce que je voulais vous dire. J'ai juste le temps. C'est que c'est le problème de la traduction dans une langue étrangère. Ce qu'on apprend ici, c'est très important. Quand c'est Moïse qui traduit, il y a des chances que la traduction dans la langue étrangère soit valable. Ici, c'est un goy qui traduit de l'hébreu. Il va projeter sa langue goy dans l'hébreu. Et c'est pourquoi je suis contre ces traductions que font les juifs de diaspora. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que bien qu'ils sont juifs, mais c'est pas qu'ils ne savent pas l'hébreu, ils le savent. En général, c'est des rabbins. Ils ne savent pas le français. Je ne sais pas si je vous étonne en vous disant ça. Ça, je peux vous démontrer dans n'importe quelle traduction du rabbinat français. Ils ne savent pas le français tel qu'il faut le formuler pour traduire l'hébreu. Et alors, leur hébreu, c'est l'hébreu, mais leur français est chrétien. Je schématise beaucoup, bien entendu. Mais je crois qu'on a eu déjà une étude sur Zakat et Romain Beau. Oui, je ne sais pas si vous rendez compte. Mais moi, j'en veux pas du tout à ces rabbins de la Bible du rabbinat. Il y avait même un grand rabbin connu, il s'appelait Rabbi. C'est seulement, ils ont fait un pari d'une symbiose judéo-goy qui a été un pari perdu à l'avance. Je vais vous dire là, c'est quelque chose d'un peu inquiétant. Chaque fois Puis le 5 jours au sud de Hugo, il a réussi, il y a eu une catastrophe. Regardez l'Espagne. La Saint-Birgit ou l'Espagnol, c'est une vraie réussite. Ça a été sanctionné par l'Inquisition. La Saint-Birgit ou allemande, une vraie réussite, c'est au 19e siècle. Elle est sanctionnée par la Shoah. Actuellement, la Saint-Birgit ou française est en train de prendre. Et il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une exception. Et bon, vous savez quels sont les dangers de l'antisémitisme d'État, d'antisémitisme national qu'il y a en France. Mais je crois que là aussi, le plus dangereux, c'est en Amérique. Parce que la symbiose judo-américaine, la grève judo-américaine a pris. Et alors la réaction, ça risque d'être terrible. Et effectivement, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Depuis 4000 ans, on vit la même histoire. Lorsque la symbiose judo-goy réussit, il y a une catastrophe. Parce que dès qu'elle a réussi, il faut décrocher et ramener les valeurs de sainteté de la civilisation en question en Israël pour les cacheriser en hébreu. Mais les faire en langage judéo-goy chez les goyim, c'est très dangereux. Ça a été l'origine du christianisme. Voilà, je vous dis ça grosso modo, j'espère que c'est suffisamment clair. D'où ce paradoxe de cet énivrement des traducteurs juifs qui traduisent tout en français, d'ailleurs en Amérique, en Angleterre, ils le font en anglais, en se rendant pas compte qu'ils sont sur un volcan. Ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé à Alexandrie, dans une île d'Alexandrie, où toutes les sources à trois chevaux ont été traduites en grec, de là est sortie la pensée chrétienne. Les sources à pensée chrétienne, c'est les pères d'Alexandrie. Mais qui a fourni ça aux chrétiens? C'est les juifs d'Alexandrie. Voilà ce que je voulais dire, grosso modo. On va faire redescendre le rabbin de la Yeshiva dans le fond. Et alors, je vais vous dire bonnes vacances. Et je vous signale ce que je vous avais dit. Je voulais vous remercier ceux qui étaient là hier soir à l'hôtel Villemine. Il y en avait quand même. Et je pense qu'on refera des études de ce genre parce que on n'a pas eu le temps vraiment d'étudier. Et en tout cas, c'est réconfortant de voir que 50 ans après, ça puisse se restaurer. Et alors, je voulais aussi vous signaler que pour ceux que ça intéresse, il va y avoir la plantation d'un bosquet au Vambi, dans la forêt de Yatir. Alors, ceux que ça intéresse, téléphonez au KKL.
J'ai une prospectus dans
le... Il y en a ?
Oui, dedans.
Bon.
Tout le bus,
oui.
Côté
ah oui.
Il y a une prospectus dans le prospectus.
Oui, très bien. Il suffit de donner votre nom. Parce qu'il n'y a que 50 places. Les premiers assis seront servis, les premiers services seront assis. Alors, on va faire vite.